Europe Matin.
Fanny Marceau et Omblin Roche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Bon réveil et bon courage au lève-tôt alors que nous sommes ce vendredi matin en plein franchissement du pont de l'Ascension. Rappelez-vous, c'était il y a 3 jours le dernier tour de piste d'un champion de tennis français.
Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Le jour de dire au revoir à mon compagnon de toujours. Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont permis de rester moi-même. Joe, le petit gars qui voulait devenir tennisman.
Et voilà comment Joe Wilfried Tsonga a fait ses adieux à Roland-Garros et à sa carrière de champion. Vous l'aviez entendu sur Europe 1, un épisode qui restera gravé dans l'histoire du stade de la Porte d'Auteuil.
Un épisode de plus dans la grande histoire de Roland-Garros. On se souvient de la première participation de Monica Seles, 1989, battue en demi-finale par Steffi Graf, ou 10 ans plus tard du nouveau départ d'André Agassi.
Oui, Roland-Garros, son inauguration, son match de la Libération en 1944, ses transformations, ses anecdotes aussi. Tout est dans le livre Stade Roland-Garros, publié chez Amazon, et nous serons avec son auteur, le journaliste spécialiste tennis Eliassine Aoubi à 5h45. Dans l'actualité ce 27 mai, Fanny.
Et bientôt le clap de fin pour le Festival de Cannes. Demain, ce sera la dernière séance à 6h10 avec le critique cinéma Simon Rio. On reviendra sur ces 10 jours de fête après 2 ans de pandémie. Cannes a retrouvé son public et ses grands moments artistiques mais aussi politiques.
Mais alors, à qui ira la Palme d'Or? 21 films en compétition, un jury hyper éclectique, difficile de faire un pronostic. Ce sera la surprise parmi les favoris, la femme de Tchaïkovski ou encore Armageddon Time.
Et on terminera l'émission Omblin avec votre partition.
Et retour en 1985. Tiens, on vient de l'entendre, mais Alain Souchon en 85 sortait son 7e album.
C'est comme vous.
Disque plus rock enrobé des synthétiseurs à la mode de l'époque, la partition de C'est comme vous voulez d'Alain Souchon à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme. La météo d'abord. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour à tous. Absolument, avec le retour du soleil et des maximales entre 18 à Cherbourg et 33 à Montpellier, il faut juste patienter un petit peu au nord de la Loire où vous passez votre matinée sous les nuages et quelques bruines. Mais dans l'après-midi, vous allez retrouver de larges éclaircies, voire du très beau temps sur ces régions. Les nuages vont être juste un petit peu plus résistants des Pays de la Loire à la Lorraine. Dans le sud-est, des Alpes à la Côte d'Azur jusqu'en Corse, vous êtes toujours sujet à des cumulus, parfois menaçants, donnant un orage. Et puis entre les deux, c'est très variable, voire très ensoleillé. Les températures grimpent avec 15 à 20 degrés ce matin, 30 à 32 cet après-midi dans le sud et des pointes à 35 dans l'arrière-pays varois. Je vous en dis plus tout à l'heure.
Merci Valérie Darmon. Très bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h. Question ce matin, faut-il geler les loyers pour protéger notre pouvoir d'achat mis à mal par la flambée des prix? Bercy y réfléchit, les locataires sont pour. Qu'en est-il des propriétaires? Réponse dans un instant. L'Amérique plus que jamais fracturée sur les armes à feu. Le lobby pro-armes NRA se réunit à partir d'aujourd'hui pour sa grande convention annuelle. Hasard du calendrier, 2 jours après la tuerie d'Uvalde au Texas. Nos plages menacées par la montée des eaux pour les protéger mais aussi pour préserver la biodiversité. Eh bien, de nouvelles solutions dites douces émergent. Nous les découvrirons dans un instant.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
La première édition de la matinée, c'est avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. C'est un mot que nous avons tous à la bouche en ce moment quand on fait nos courses, le plein de carburant ou encore en payant nos factures d'électricité. Inflation. Alors que vous soyez locataire ou propriétaire bailleur, voilà un sujet qui devrait vous intéresser ce matin. Pour défendre le pouvoir d'achat, le gouvernement réfléchit à geler les loyers car le logement, Carole Ferry, représente en moyenne un quart de nos dépenses.
Oui, c'est une demande très appuyée des associations de consommateurs, notamment que les propriétaires ne puissent pas augmenter le loyer pendant 1 an. Le prochain indice qui permet de réviser les montants doit être publié le 1er juillet prochain et il est calculé notamment en fonction de l'inflation, ce qui fait craindre un nouveau coup de massue pour les locataires. Mais le principe est loin d'être acté, répond Bercy. La première ministre Elisabeth Borne n'y est pas forcément favorable non plus, car vous avez souvent derrière de petits propriétaires retraités, par exemple, qui arrondissent ainsi leur fin de mois, ou tous ceux qui vont devoir réaliser des travaux d'économie d'énergie. Selon le président de l'Union nationale des propriétaires, Christophe Demerson, la solution est ailleurs.
Quand on nous dit oui, d'accord, les loyers vont augmenter de 2,48%, oui, seulement ce qu'on ferait mieux d'encadrer, c'est les taxes foncières. Parce que les taxes foncières sur les 10 dernières années, c'est 3 fois l'inflation et 3 fois l'augmentation des loyers. Donc il faut être raisonnable. Commençons à arrêter de saigner les propriétaires.
La Fondation Abbé Pierre suggère plutôt de son côté une hausse des aides au logement, les APL, qui permettrait de protéger les plus fragiles sans pénaliser les propriétaires.
Merci Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Ce gel des loyers qui est à l'étude donc, comme la revalorisation des minima sociaux, la hausse des salaires des fonctionnaires, le bouclier tarifaire sur l'énergie ou encore les chèques alimentation.
Des pistes qui seront évoquées par Elisabeth Borne. Ce matin, la première ministre reçoit son gouvernement à Matignon pour distribuer à chaque ministre sa feuille de route.
Les États-Unis, plus que jamais, fracturés entre les pros et les anti-armes, 2 jours après la tuerie d'Uvalde qui a coûté la vie à 19 enfants.
Meghan Markle, la femme du prince Harry, est allée se recueillir sur place hier. Joe Biden et son épouse s'y rendront quant à eux demain après-midi.
Après-demain. Hasard du calendrier, toujours au Texas, l'un des plus importants, lobby pro-armes, la NRA se réunit à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi pour sa grand-messe annuelle dans la ville de Houston. Le reportage sur place de notre correspondante Europe 1, Aviva Fried.
Des barrières oranges interdisent l'accès du centre des congrès de Houston à toutes les voitures. Sécurité renforcée pour accueillir le congrès annuel de la NRA, le lobby américain des armes. Mark Schilling est venu récupérer son badge d'entrée. Pour lui, la tuerie d'Uvalde ne justifie pas qu'on annule le rassemblement.
C'est triste ce qui est arrivé, mais la NRA fait beaucoup de bonnes choses.
Patrick, lui, est membre de la NRA depuis une quinzaine d'années. À la question pourquoi on ne peut pas un peu contrôler qui a accès aux armes, la réponse est simple.
Regardez ce qui se passe en Ukraine. Comment se défendent les Ukrainiens avec des armes ?
Longue barbe blanche de biker, tatouage sur les biceps, Bruce affiche fièrement un ruban qui l'identifie comme patriote, membre à vie de la NRA. Dans sa poche, une arme à feu, car pour lui la menace vient du sommet de l'État.
Je crois que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que les échelons supérieurs du gouvernement ont été mis en place de manière frauduleuse. C'est comme si les cartels avaient pris possession de notre gouvernement. Les gens doivent avoir les moyens de répondre à ça.
La tuerie d'Uvalde ne gâchera pas la grande fête de la NRA. Le gouverneur du Texas et Donald Trump sont attendus au centre des congrès, où, comble de l'ironie, les armes à feu sont interdites. À Houston, Aviva Fried, Europe 1.
Retour en France. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez choisi la plage pour ce long week-end de l'Ascension. Les falaises, les plages justement, sont de plus en plus grignotées, menacées par la montée des eaux.
126 communes sont concernées. La carte a été dévoilée par le gouvernement. Et quand on la regarde, le constat est sans appel. Des côtes de la Manche à l'Atlantique jusqu'en Méditerranée, tout le monde est concerné. Alors, pour empêcher la mer de gagner du terrain, des digues sont parfois construites, sauf qu'elles dévient le courant et font des dégâts. D'autres solutions existent, dites douces, Thibault.
Oui, à Mortagne, en Gironde, par exemple, la digue a cédé après une tempête en 1999 et n'a jamais été reconstruite. Alors la mer est toujours là, les habitants cohabitent avec elle et le littoral est devenu un grand présalé. Une bonne alternative, selon Olivier Alénoux, responsable de l'antenne Charente-Maritime du Conservatoire d'Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine.
L'espace tamponne, on va dire, les vagues. Ça n'empêche pas forcément la mer de monter, mais on réapprend à vivre. On change un petit peu l'économie qui avait avant, qui était plutôt un petit peu céréalière. On a remis en place du pâturage mouton.
Faire confiance à la mer, retrouver un équilibre, c'est aussi l'objectif d'Espace Pur. L'entreprise bretonne a créé un outil pour aider les plages à se renforcer naturellement. C'est ce qu'explique la gérante Béatrice Cornic.
Le stabiplage, c'est un cylindre en fait, en géosynthétique recyclable. Et quand les courants arrivent sur la plage et qu'ils rencontrent cet ouvrage, le sable va se déposer à côté. La plage est recréée et donc l'érosion est enrayée. Il y aura moins de risques de contact entre la mer et la dune ou les zones arrières.
Des solutions douces pour ne plus dévier les courants et repousser de quelques années l'érosion, toujours inévitable.
Thibault, et vous pouvez retrouver la liste des 126 communes concernées sur notre site internet europe1.fr.
5h06 sur Europe 1. Je suis désolée, les excuses du directeur général France de Ferrero qui fabrique les Kinder.
Il demande pardon dans le Parisien aujourd'hui en France aux plus de 80 personnes tombées malades après avoir consommé des chocolats contaminés à la salmonelle. Selon Nicolas Nekoff, ces rappels de chocolat en pleine période de Pâques représentent plus de 3000 tonnes de produits Kinder retirés du marché, le plus gros rappel de produits de ces 20 dernières années.
On termine ce journal avec un mot de Roland Garros. Votre radio Europe 1 est la radio officielle du tournoi Porte d'Auteuil où les hommes ont fait fureur hier.
Oui, qualification pour le 3e tour d'Hugo Gaston pour son dernier Roland Garros. Gilles Simon a réalisé la 500e victoire de sa carrière sur le circuit ATP. Chez les dames, seule faute fausse note, Caroline Garcia, sortie par Madison Keys. En revanche, ça passe pour Alizé Cornet et Léolia Jean-Jean.
Et sur les cours aujourd'hui, une seule Française, Diane Paris.
Et elle a déjà fait tomber la tenante du titre, hein, Barbora Krejcikova. Cet après-midi, elle tentera de réitérer l'exploit et de se qualifier pour les huitièmes contre l'américaine Sloane Stephens. Axel May, Diane Paris, c'est un peu la révélation française de cette édition.
Oui, à Roland-Garros, Diane Paris est comme chez elle. La jeune femme de 19 ans s'entraîne au Centre National du Tennis, Porte d'Auteuil, et habite juste à côté, à Boulogne-Billancourt. Et c'est peut-être l'une des clés de la réussite cette année de l'ancienne numéro 1 mondial junior.
Déjà, le fait de rentrer chez moi le soir et de pouvoir déconnecter, couper du tournoi, de l'ambiance qu'il y a, de l'énergie que ça prend, je pense que c'est vachement important et ça m'aide. Et ensuite, de sentir que ouais, on est vraiment chez soi. Je m'entraîne là l'année, mais bon, c'est toujours différent quand le tournoi commence. Il y a une ambiance particulière et puis voilà, il y a le public. Et on sent qu'ils sont heureux d'être là et de pouvoir profiter justement des matchs.
Son préparateur physique craignait qu'elle soit submergée par les émotions, par tout ce qui lui arrive. Mais Diane Paris reste sereine. Elle a pourtant battu la tenante du titre, puis une Colombienne mieux classée. Et la voici donc au troisième tour. Face à l'américaine Sloane Stephens, finaliste ici même il y a 4 ans, la jeune Diane, 97e mondiale, peut continuer à montrer que Roland-Garros, c'est chez elle qu'ici, c'est Paris.
Merci Axel May. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30 pour le journal de Roland-Garros.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban. Il est 5h09, on passe aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 113 Crésus Di Poggio. Ce trotteur italien est l'une des révélations de ce début d'année. Il totalise en effet pas moins de 4 victoires à Vincennes pour autant de tentatives, toutes obtenues avec désinvolture. Et force est de reconnaître que depuis qu'il est entraîné par Jean-Michel Bazire, il a franchi plusieurs paliers et ses limites actuelles restent à déterminer. Alors notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1, dans la première course, le numéro 13, Crésus Di Poggio.
Merci Thierry Léger, vous revenez avec vos pronostics du Quintet dans une demi-heure et dans un instant, le pressing.
Europe 1. Fanny Marceau et Omblin Roche.
Bon vendredi matin avec nous sur Europe 1, c'est l'heure des 3 nouvelles histoires du pressing avec nous Martin Lange.
Bonjour Omblin, bonjour Fanny, bonjour à tous.
Bonjour Martin, on commence avec les unes de vos journaux, le mea culpa du patron de Ferrero, on en parlait il y a un instant après la contamination des chocolats Kinder à la salmonelle qui a conduit au moins 81 enfants à l'hôpital. Le directeur général France de Ferrero répond aux lecteurs du Parisien aujourd'hui en France et présente ses excuses ce matin. 3000 tonnes de produits ont été rappelées, il promet transparence et écoute pour convaincre les consommateurs de consommer à nouveau ces produits. États-Unis, la super impuissance à la une de l'humanité. La fusillade d'Uvalde au Texas qui a fait 21 victimes dans une école élémentaire montre à quel point les autorités américaines sont incapables de faire face au lobby des armes. 2 jours après le drame, le meeting annuel de la NRA, la National Rifle Association, a lieu aujourd'hui à Houston. Donald Trump et le gouverneur du Texas doivent s'y exprimer. Et puis de la politique à la une du Figaro. Rien ne va plus dans le Paris d'Anne Hidalgo, titre le quotidien. La maire de la capitale, plus contestée que jamais après sa déroute à la présidentielle. Même dans sa majorité, ses projets peinent à faire l'unanimité. Voilà pour les unes. Omblin, quel article avez-vous sélectionné ce matin ?
Cela fait 3 ans. 3 ans, c'est long, hein ? 3 ans qu'on attend ce moment. La bande d'ados de la ville d'Hawkins dans l'Indiana est de retour pour essayer de sauver le monde.
On a une fan, je
crois. On adore.
Oh joie, oh mes oui. amis. Dans moins de 4h à 9h, 9h du matin, 9h AM, on va pouvoir découvrir la nouvelle et quatrième saison de la série événement Stranger Things sur Netflix, la série au carton planétaire à la saveur années 80, pimentée au surnaturel. On nous promet de la romance, de l'humour évidemment, ce ne serait pas possible autrement, de la peur et du gore, de l'hémoglobine assumée, avec à nouveau des références cultes comme celle au film Freddy et les griffes de la nuit. Les créateurs, les frères Matt et Ross Duffer, poussent même le clin d'œil à son paroxysme en faisant apparaître qui ? Dans l'épisode 4, l'acteur qui a incarné Freddy entre 1984 et 2010, l'Américain Robert Englund. Cette saison 4 promet de revenir sur certaines intrigues laissées en suspens à la fin de la saison précédente.
Une guerre se prépare. J'ai bien peur que tes amis Dawkins ne soient dans l'œil du cyclone.
Mais pourquoi cette ville Dawkins est le théâtre d'événements effrayants ? Qu'est-il advenu du shérif Hopper ? On va avoir le temps de creuser le sujet puisque chaque épisode dure 1 heure, voire plus.
jusqu'à 1h38. Quant au personnage de Stranger Things, c'est ça qui est génial quand les héros sont à l'origine des enfants. On les voit évoluer, on les voit changer physiquement. Ils ont gagné une bonne vingtaine de centimètres et ils se promènent avec des visages presque d'adultes. C'est quand même fou. Rendez-vous avec les 7 premiers épisodes de cette 4e saison dès ce matin. Et sachez que les 2 derniers sont diffusés le 1er juillet. Note importante, on sait déjà qu'il y aura une saison 5. Stranger Things, le retour tant attendu sur Netflix pour un retour en enfer réussi, c'est dans Aujourd'hui en France. Le Figaro et l'Humanité en parlent également ce matin. Les critiques sont plutôt élogieuses.
Merci beaucoup, Ambline. On a très très envie et très très hâte de découvrir cette nouvelle saison. Martin.
Oui, le débat sur les armes est tristement revenu dans l'actualité aux États-Unis ces dernières heures, hein, après la terrible fusillade d'Uvalde au Texas. 19 enfants tués dans une école. Et on entend souvent outre-Atlantique que cette question des armes à feu est insolvable. Un lobby, hein, la fameuse NRA, trop puissant, un article de la Constitution qui garantit le droit de porter une arme et puis surtout un nombre de fusils en circulation, un démentiel impossible à contrôler. Je rappelle qu'il y aurait aux États-Unis 400 millions d'armes pour seulement 300 millions d'habitants. Mais ce matin, j'ai décidé d'être optimiste avec un exemple à suivre pour nos amis américains, l'Australie. Grâce à une politique volontariste menée il y a 25 ans, les Australiens ont considérablement réduit le nombre d'armes en circulation et surtout le nombre de tués par balle, nous apprend le site Slate.
Alors en quoi elle consiste cette politique, Martin ?
Alors petit bond dans le temps, je vous emmène en 1996, l'Australie est sous le choc. Martin Bryant, 28 ans, vient de tuer 35 personnes dans un café de Port Arthur. Un drame comme un électrochoc. En quelques mois, le Premier ministre John Howard parvient à convaincre tous les partis de sa coalition. Il faut réformer la loi sur les armes. C'est comme ça que naît le NFA, National Firearms Agreement, littéralement l'accord national sur les armes à feu. Alors qu'est-ce que contient cet accord ? Un registre national des armes est créé pour savoir qui possède quoi. Un permis est désormais exigé pour tout nouvel achat. Et puis, certaines armes les plus dangereuses sont tout simplement déclarées illégales. Rien de révolutionnaire, me direz-vous, sauf une idée. Chaque Australien qui ramène une arme se la fera rembourser au prix de l'Argus. Grâce à ce dispositif, le gouvernement récupère 650 000 armes à feu en moins d'un an, soit 20% de l'arsenal australien.
Bon, c'est beaucoup et peu à la fois.
C'est vrai, mais les conséquences de ces saisies d'armes ont été impressionnantes. En 7 ans, le taux de suicide par arme à feu a diminué de 57% et le taux d'homicide par balle de 42%. Même les tueries de masse ont quasiment disparu. Il y en avait eu 13 en 18 ans avant Port Arthur. Depuis, seulement 2. Alors, les États-Unis sont-ils prêts à adopter un dispositif similaire? On a le droit de rêver. La stratégie folle de l'Australie pour enrayer les morts par arme à feu, c'est à lire sur le site de Slate et c'est passionnant.
Merci beaucoup Martin. Pour conclure ce pressing, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer 2 minutes que vous êtes au bord d'un fleuve, disons la Seine, en Normandie par exemple, entre Rouen et Le Havre. Vous vous baladez tranquillement et tout à coup, vous voyez une orque. Alors elle disparaît dans l'eau, vous pensez avoir halluciné, vous prenez 2 secondes pour vous interroger sur vous-même et puis souffler un petit peu. Et la voilà qui ressort de l'eau. Bon sang, c'est bien une orque, 4 mètres de long. Et en fait, ça fait bien une semaine qu'elle est là à se balader dans la Seine pour de vrai. Alors au-delà de la surprise, c'est inquiétant parce qu'une orque, c'est dans l'eau salée. Dans l'eau douce, elle développe des mycoses, sa peau s'abîme. Et puis elle ne peut pas plonger suffisamment profondément et sa ressource alimentaire est limitée. Bref, elle n'a rien à faire là et risque de mourir si elle ne retourne pas très vite à la mer.
Et on se demande vraiment comment elle s'est trouvée là.
Il y a plusieurs hypothèses en fait. On pense notamment qu'elle aurait pu être bannie de son groupe à la mort de la matriarche et qu'ensuite, la mort dans l'âme, elle aurait dérivé jusqu'à la Seine, totalement perdue. L'autre option, c'est qu'elle se serait perdue loin des siens lors d'une partie de chasse, car l'orque, terrible prédateur des mers, est aussi un animal très sociable, hyper malheureux en solitaire. On imagine donc son désespoir, seul, amaigri, affamé, dans cette étroite bande d'eau douce qui n'est pas du tout son habitat naturel. Ça se voit d'ailleurs à son aileron dorsal qui est affaissé, comme celui des orques qui vivent en captivité.
Et c'est impossible de la sortir de là, Fanny ?
Eh bien non. En fait, on pourrait envisager de la pousser ou de la guider avec un bateau, mais elle est déjà trop loin de la côte et l'opération pourrait la stresser, ce qui lui serait en fait fatal. Donc rien à faire sinon attendre et espérer qu'elle trouve le chemin toute seule. Et surtout pas question de jouer à sauver Willy. Ah oui, la musique fait rêver, c'est bien joli à la télé. Mais en vérité, aimer un animal sauvage, c'est l'aimer de loin. C'est ce que rappelle l'ONG Sea Shepherd. Pas question de s'en approcher. D'abord parce que son souffle pourrait renfermer des bactéries dangereuses pour l'homme. Mais en plus parce que l'orque que vous aviez peut-être version peluche dans votre enfance est un prédateur. Et toute intervention pourrait l'effrayer. Imaginez un prédateur effrayé, c'est pas tout à fait rassurant. Donc on va simplement la contempler du bord de Seine, et puis croiser les doigts. Une orque dérive sur la Seine depuis plusieurs jours. À lire un un peu partout, et notamment dans Le Parisien et sur centrepresse.fr.
Merci beaucoup Fanny, on espère effectivement qu'elle va retrouver,
on espère,
qu'elle va retrouver
on y croit.
Son chemin et cet aileron dorsal qui est complètement affaissé.
C'est triste.
Bientôt devant la Tour Eiffel.
J'espère qu'elle ne montera pas jusque là, parce qu'elle ne pourra pas faire demi-tour.
Non, là, ça va être compliqué. Merci.
Merci
Martin, on se retrouve dans 40 minutes.
À tout à l'heure.
Pour le Journal des Sports. À tout à l'heure.
Europe Matin. Fanny Marceau et Omblin Roche.
5h18, les principaux titres de ce vendredi. Le journal permanent, Alban Le Prince.
Au Texas, deux jours après la tuerie d'Uvalde qui a coûté la vie à 19 enfants, le lobby pro-armes NRA se réunit à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi pour sa grande convention annuelle. Donald Trump y prendra la parole tout à l'heure. Dans la ville meurtrie d'Uvalde d'ailleurs, Meghan Markle, la femme du prince Harry, est venue se recueillir hier. Joe Biden, le président et son épouse se rendront sur place dimanche. Une trouvaille hallucinante hier sur les plages de Berck dans le Pas-de-Calais. Un promeneur a découvert plusieurs pains de cocaïne pour un total de 21 kilos. Et puis carton en salle pour Top Gun Maverick. Les cinémas ont fait le plein mercredi pour sa sortie avec 321 000 entrées. C'est le deuxième meilleur démarrage de l'année et c'est un film européen.
Ce sont à présent les initiatives en France sur Europe 1, votre rendez-vous feel good du matin. Et aujourd'hui, on fait du shopping durable, Fanny.
Bonjour Louis Goulet.
Bonjour Fanny.
Vous êtes fondateur de la marque Noyoko, j'essaie de le dire bien parce que c'est vrai qu'on peut vite s'en mêler les pinceaux. Tout à la fois, merci beaucoup. Tout à la fois une marque, un label, un laboratoire, une fondation avec un objectif, faire de la mode un monde plus vert. Bon, d'abord Noyoko, qu'on arrive à prononcer correctement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, Noyoko, c'est un nom qui a une longue histoire, qui revient aux prémices du projet, quand la marque s'appelait No Youth Control, et c'était un hommage à la ville de New York City, où on a habité pendant longtemps et qui nous avait beaucoup inspiré au départ. Donc voilà, on a raccourci pour nos amis français qui trouvaient ça très difficile à prononcer, et du coup, c'est Noyoko, mais ça n'a rien à voir avec le Japon.
Effectivement, ça y ressemble un petit peu. Alors depuis 2014, votre sonnette d'alarme, c'est « Attention, la mode, c'est tout sauf écolo, on peut faire mieux ». On peut peut-être rappeler en quoi c'est polluant la mode quand même.
Oui, tout à fait. Bah, alors, il y a eu énormément de chiffres qu'on a vus ces dernières années. Ce qu'on sait, c'est que c'est une des industries les plus polluantes au monde, qu'on produit environ 100 à 120 milliards de vêtements par an. Donc, c'est colossal en termes d'émissions CO2, en termes de ressources, eau, pesticides. La fast fashion a enfoncé le clou. Et effectivement, il est urgent de sortir de ce modèle de consommation et de revenir à quelque chose de beaucoup plus raisonné, tourné vers la qualité, vers des sourcings vertueux.
Et comment fait Noyoko alors ?
Noyoko a construit un réseau de production à travers les années, vertueux, qui se base sur des matières de haute qualité qui sont tissées en Europe, qui sont toutes d'origine naturelle, sans microplastique. Vous allez retrouver du lin, du tencel, du coton recyclé, du coton bio, et un réseau de production en direct de petits et moyens ateliers en Europe, avec également le saint graal de l'éco-responsabilité qui est les tissus dits upcyclés, dead stock. En fait, c'est des matières qui sont déjà existantes, qui sont issues de surplus de production et qu'on réintègre, qu'on remet dans le circuit, dans nos collections, pour ne pas créer de matières nouvelles, et ce qui est quand même une des parts les plus importantes en termes d'impact sur le vêtement.
Parce qu'avant ça, ces matières, elles allaient à la poubelle ?
Alors, c'est un processus qui est un peu plus long que ça. On va dire qu'elles transitent généralement vers l'Est, vers le Moyen-Orient, ensuite vers l'Afrique. Elles sont vendues au détail tout au long du chemin, mais invariablement, il y a un moment où effectivement elles sont enfouies, elles sont détruites, elles ne sont pas utilisées, donc c'est un gâchis monumental, parce que pour faire un kilo de coton, il faut des milliers de litres d'eau, enfin c'est quelque chose qui, en termes de ressources, n'a aucun sens.
Et qu'il était nécessaire de sauver. Près de 8 ans après votre lancement, vous avez trouvé votre clientèle. Vous êtes combien aujourd'hui à travailler chez Noyoko ?
On est une petite vingtaine, ça reste une petite équipe, mais effectivement, on a beaucoup grandi à travers pas mal de projets différents. Moi, ce que j'adore chez Noyoko, c'est qu'à chaque fois qu'on est confronté à un nouveau challenge, notre premier réflexe, c'est de se demander si on peut relever le défi nous-mêmes, en interne, en inventant quelque chose de nouveau. Et souvent, ça débouche soit sur un nouvel outil, un calculateur d'impact écologique, par exemple, un nouveau projet au sein de la société, voire carrément sur une nouvelle société qui rejoint l'écosystème Noyoko. Par exemple, on a Good Label Europe, qui est notre bureau de production qu'on a créé en 2018, qui est basé à Bucarest, en Roumanie, avec une équipe locale dont on est très fiers, parce qu'on est une équipe européenne et dont la mission est double, c'est organiser un réseau de produits de confection qui est composé de petits et moyens ateliers qui, normalement, n'ont pas les infrastructures commerciales pour travailler en direct avec des marques et qui sont plutôt habitués à la sous-traitance en bout de chaîne, et aussi gérer notre réseau de sourcing d'upcycling. On peut aussi citer le Noyoko Lab, qui est un espace qu'on a créé en 2019 de co-working slash pépinière et qui est dédié aux marques et aux petites entreprises éco-responsables dont la mission intègre une part d'intérêt général et que donc du coup qu'on accueille dans cet espace pour créer des synergies parce que en fait ça répondait à un constat qu'on avait fait nous-mêmes que des petits projets comme ça ont besoin d'accompagnement, d'infrastructures, de conseils et ensemble on est plus fort. Donc voilà pour en citer deux.
Et maintenant que vous êtes plus fort et plus nombreux, est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous commencez à peser suffisamment lourd pour faire bouger les lignes?
Alors, la solution, elle va être, je pense, de faire changer l'industrie de l'intérieur. On ne peut pas se dire qu'on va juste remplacer toutes les enseignes qui existent à l'heure actuelle. Mais par contre, par l'exemple, les faire se réformer de l'intérieur, changer les bonnes pratiques, relever toujours les exigences et les standards en termes d'éco-responsabilité, ça peut avoir un vrai impact. En termes de législation aussi, proposer des règles qui soient plus ambitieuses, ça peut avoir un vrai impact. Et c'est vrai que à minima, on assiste à une vraie prise de conscience du public qui est suivie d'initiatives plus ou moins efficaces de la part des grandes enseignes. Et pour Noyoko, nous, on est sur une croissance constante où on a effectivement l'impression d'avoir de plus en plus de clients fidèles qui accrochent non seulement au style, mais aux valeurs de l'entreprise.
Et vous avez aussi lancé une fondation, la Noyoko Fondation, pour protéger les animaux, entre autres. Les belles initiatives de Noyoko, marque, label, labo et fondation. Merci Louis Goulet d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Très bonne journée à vous.
Bonne journée, au revoir.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
Il est 5h28, bon début de matinée sur Europe 1. Suivre le journal de Lénaïque Monnier et puis direction Roland-Garros dans un quart d'heure, non pas sur les cours, mais dans ses allées et au cœur de ses bâtiments.
Oui, en attendant le début du troisième tour des Internationaux de France de tennis, en fin de matinée, eh bien on redécouvre l'histoire de Roland-Garros, de son inauguration en 1928 à l'installation du toit au-dessus du Philippe Châtrier, ses travaux, ses champions, ses petites anecdotes. On en parle avec le journaliste spécialiste tennis, Eliassine Aoub, qui publie chez Amazon le livre Stade Roland-Garros.
Et juste après, du hard rock britannique.
Voilà, ça change d'un petit peu de Nolwenn Leroy.
Hein.
Il faut de tout. Def Leppard présente le disque Diamond Star Hallows et il sort aujourd'hui. C'est le choix de Stéphanie Loire, sa prescription musique dans 20 minutes.
Mais d'abord, la météo, Valérie Darmon. Quel est le programme plutôt beau?
Et oui, pour Roland-Garros, c'est juste idéal aujourd'hui. Hein. On est sous l'influence d'un anticyclone situé sur l'Irlande. Il laisse passer de tout petits fronts nuageux sur un petit tiers nord et de rares gouttes possibles. Nuages assez abondants ce matin avant le retour de très très belles éclaircies cet après-midi, notamment sur la région parisienne, mais aussi sur les côtes normandes, sur les Hauts-de-France, sur les Ardennes. Pour le reste, c'est une très belle journée qui s'annonce sous des maximales en hausse en plus, pour tout le monde. En hausse d'1 à 2 degrés, mais contrastée entre le nord et le sud, avec à vos thermomètres 16 degrés cet après-midi à Boulogne-sur-Mer, 18 à Dunkerque, 21 à Rodez et Aurillac, 22 à Troyes et Carcassonne, 23 en région parisienne, 24 à Angoulême, 27 à Manosque, 29 à Marseille, et la maximale des maximales, 30 degrés à Montpellier.
Bon, ça fait rêver cet après-midi, mais ce matin?
Ce matin, 24 à Nice, à l'heure où on est en train de se parler, et au même moment, 9 degrés à Vannes, ils sont moins chanceux.
Oui, effectivement, c'est pas tout à fait le même délire. Merci beaucoup Valérie. Bon réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, c'est l'heure de votre journal.
Europe 1.
Les stations balnéaires font le plein en ce pont de l'Ascension. Même les touristes étrangers sont de retour, nous dira Maximilien Carlier. Du sarcophage doré au buste de Cléopâtre. On vous raconte ce matin sur Europe 1 cette affaire de trafic d'antiquités au sein du Louvre. Et puis les nocturnes à Roland-Garros réussissent aux Français. Après Gilles Simon, victoire tard hier d'Alizé Cornet.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
Et le journal, c'est avec Lénaïque Bonnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. Est-ce que vous profitez bien de votre long week-end de l'Ascension? En tout cas, vous ne devez pas vous sentir seul. Les stations balnéaires ont fait le plein. Nous sommes ce matin à Malo-les-Bains, pas très loin de Dunkerque. La digue est bondée avec notamment le retour des touristes étrangers. Maximilien Carlier.
Sur la digue, Jonathan et Pauline, originaires de Wavre, au sud-est de Bruxelles. Trois jours sur le littoral dunkerquois qui est, d'après ces deux touristes, plus agréable que chez eux.
En fait, sur les plages en Belgique, il y a d'office sur la digue tous les immeubles qui donnent directement sur la digue, alors qu'ici c'est déjà beaucoup plus épuré et on se sent moins oppressé aussi. Il y a beaucoup, enfin, on a cette impression qu'il y a moins de monde aussi en fait.
Pourtant, les terrasses sont presque remplies. On voit des groupes d'Allemands, de Néerlandais, d'Anglais, maillot du 15 de trèfle sur le dos. Georges, lui, est Irlandais.
Dunkerque, c'est vraiment chouette, hein. Superbe plage, les gens sont sympas, la bière est bonne. Ce n'est pas trop cher en plus et il y a plein d'activités sur le port. Nous sommes venus en bateau, forcément après le Covid, tout le monde a envie de découvrir de nouveaux endroits.
Les touristes étrangers reviennent enfin, constatent la plupart des saisonniers. C'est assez inhabituel pour les locaux qui, pendant deux ans, étaient les seuls à profiter du littoral. Malo-les-Bains, Maximilien Carlier, Europe 1.
Malo-les-Bains qui n'est pas concerné pour le moment par la montée des eaux, c'est notre dossier ce matin sur Europe 1. Votre commune, celle où vous passez vos vacances, sont-elles menacées? Explication sur le phénomène de l'érosion à 6h30 et à 8h et surtout le détail des 126 communes menacées à retrouver sur europe1.fr.
Justement, le réchauffement climatique, l'une des priorités du gouvernement Borne.
Oui, hier Elisabeth Borne était en déplacement dans le Loiret, dans une exploitation agricole qui est touchée par la sécheresse. La Première ministre va aujourd'hui distribuer à ses ministres justement leur feuille de route. Outre les questions liées à l'écologie, celles en lien avec le pouvoir d'achat.
5h32 aux États-Unis, trois jours après la fusillade dans cette école d'Uvalde au Texas, la grande convention de la NRA débute aujourd'hui.
Oui, alors la NRA, c'est ce lobby extrêmement puissant qui fait la promotion des armes à feu dans tout le pays. Le sénateur du Texas, Ted Cruz, et l'ancien président américain Donald Trump seront présents. Hier, les familles se sont plaintes de l'inaction des autorités et de l'entrée tardive des policiers dans l'école alors que le tireur avait débuté son carnage.
Un retour en France avec cette affaire assez incroyable. L'ancien patron du Louvre soupçonné de faire du trafic d'antiquités.
Oui, alors il faut reconnaître qu'il avait des trésors sous la main. Jean-Luc Martinez a quitté ses fonctions il y a un an. Hier, il a été mis en examen pour blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée. Gladys Lafitte, de quoi est-il soupçonné exactement ?
Eh bien, d'avoir fermé les yeux sur l'origine illégale de 5 pièces antiques égyptiennes achetées par le Louvre à Abu Dhabi, dont une stèle en granit rose de Toutankhamon. Ces œuvres ont été achetées plusieurs dizaines de millions d'euros par le musée alors que leur provenance est illégale et que de faux certificats d'origine ont été fournis. Et c'est ce que reprochent les enquêteurs à l'ex-directeur du Louvre, d'avoir acheté les pièces en connaissance de cause. Cette mise en examen n'est pas la première dans ce dossier tentaculaire de trafic d'antiquités pillées dans des pays instables comme l'Égypte ou le Yémen et revendues ensuite une fois gommées leur provenance illégale. Au moins trois autres personnes sont soupçonnées d'avoir blanchi des antiquités. L'enquête devra déterminer les conditions précises d'acquisition des œuvres concernées par le Louvre à Abu Dhabi. De son côté, Jean-Luc Martinez conteste fermement sa mise en cause dans cette affaire.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1, Jean-Luc Martinez qui occupe aujourd'hui les fonctions d'ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine.
Trouvera-t-on des œuvres d'art en Amazonie? Une nouvelle civilisation perdue vient d'être découverte au plus profond de la Bolivie.
Oui, alors imaginez le cadre, la forêt amazonienne dense, hostile, inhabitable et pourtant, elle a abrité pendant plusieurs siècles des civilisations complexes et connectées les unes aux autres. L'une d'entre elles qui a plus de 1000 ans vient d'être découverte dans l'actuelle Bolivie. Guillaume Dominguez.
Oui, selon les archéologues, ce peuple aurait appartenu à la civilisation Kazarabé. On retrouve parmi les vestiges des canaux d'irrigation, des bassins et des monuments de bois et de terre hauts d'une vingtaine de mètres. Pour l'archéologue Stéphane Rostin, ces traces sont des preuves que cette civilisation était bien plus avancée que ce que l'on pensait.
On a toujours focalisé sur les Mayas ou les Incas qui ont construit des pyramides et des temples de pierre. En Amazonie, ils ne disposaient pas de gisements de pierre aussi conséquents, donc ils ont construit en terre. Mais ils ont construit le même type de monument, d'architecture énorme.
Des vestiges découverts grâce au LIDAR, un boîtier embarqué dans un avion qui fonctionne comme un sonar mais émet des faisceaux lumineux. Les archéologues l'utilisent pour dresser des cartes extrêmement précises des sols, comme nous l'explique Stéphane Rostin.
Une couverture faite au LIDAR permet de dresser un plan très précis en ayant éliminé la couverture végétale. Donc c'est évidemment, dans le cas de l'Amazonie, c'est un outil extraordinaire.
Et maintenant que l'on sait où chercher, les archéologues voudraient pouvoir se rendre sur place pour commencer les fouilles.
Les explications de Guillaume Dominguez pour Europe 1.
5h35, hein, mea culpa ce matin, celui du patron de Ferrero.
Je suis désolée, dit ce matin Nicolas Neikoff à la une du journal Le Parisien. Il prend la parole pour la première fois depuis le début du scandale sanitaire. Le dirigeant reconnaît qu'il y a eu défaillance. Il promet que les familles des 81 petites victimes de salmonelle obtiendront réparation.
Les sports, et ça continue pour Alizé Cornet.
Alors la Française va au troisième tour, hein, après sa victoire sur la Lettonne Ostapenko. Hier soir, elle jouait en nocturne. C'est assez rare pour les matchs féminins. Et quand le soleil se couche sur la porte d'Auteuil, vous allez l'entendre, c'est une toute autre ambiance.
De la musique jouée par un DJ avant le match pour faire monter l'ambiance. Un public présent en nombre pour encourager hier soir Alizé Cornet. Comme depuis le début de la quinzaine, les sessions de nuit du cours Philippe Châtrier offrent un spectacle bien différent de d'habitude. Yelena Ostapenko, éliminée en trois manches par la Française, en a fait la meilleure expérience, sortie les mains sur les oreilles comme pour se les boucher, histoire d'afficher son mécontentement face à tant de bruit. Car oui, le public français s'est fait entendre pour le plus grand plaisir d'Alizé Cornet.
Ils étaient chauds patates, quoi, du premier au dernier point, ils m'ont pas lâché. Donc une première expérience en session juste fabuleuse, je ne m'attendais pas à ça et je suis une joueuse et une femme comblée ce soir.
Et cela se propage comme une traînée de poudre sur les autres cours, eux aussi éclairés cette année. Mardi à 1h05 du matin, ils étaient encore près d'un millier sur le cours Simone Mathieu pour pousser derrière Gilles Simon. À la nuit tombée, Roland Garros nous montre un autre visage, bien moins polissé, mais beaucoup plus enivrant.
Voilà, ça change, hein. C'est moins corseté tout de suite le soir. Cédric Chasseur pour Europe 1. Aujourd'hui, on va suivre Diane Paris pour une place en session de jour et vous ne manquerez rien du tournoi puisque Europe 1 est la radio officielle de Roland Garros.
Un mot de cinéma, Les Affranchis, Scarface, vous avez sans doute en tête le visage doux ou dur de Ray Liotta. Eh bien, le comédien est décédé hier.
Oui, son regard bleu a transpercé l'écran à plusieurs reprises. On vient de citer des films de Scorsese, de Brian De Palma, il y en a eu bien d'autres. Mais son rôle de balance dans Les Affranchis est sans doute le plus marquant. Et puis, décès aussi de l'un des papes de la New Wave et de ses claviers cultes. Andy Fletcher, cofondateur de Depeche Mode, s'est éteint hier. Il avait 60 ans.
Bien triste jour pour la culture. Merci beaucoup, Lénaïque Monnier. C'était votre journal. Thierry Léger, les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Fanny, direction l'hippodrome de Vincennes pour ce quintet disputé en début de soirée à 20h15. Et parmi les 15 partants âgés de 7 à 9 ans, Diego Ducanter, le numéro 5, sera sans hésitation mon favori. Irréprochable cette année, quel que soit le parcours proposé, cet attentiste qui sait finir ses courses devrait pouvoir une nouvelle fois conclure à coup sûr dans les 5 premiers. On lui opposera Flamme Vive, le numéro 8, qui reste sur 2 bonnes performances dans des quintés à Vichy, mais qui a déjà bien réussi à ce niveau sur l'hippodrome de Vincennes, avec Fée d'Orangeval, le numéro 2, en plein boom, comme le prouvent ses 3 dernières victoires consécutives. Ensuite, méfiez-vous des numéro 14, 55 Bond, courageux lauréat d'une épreuve similaire le 13 mars à Vincennes, et 7, Dream Along, pour lequel son entraîneur Éric Prudon n'a pas hésité à faire un long déplacement depuis Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne jusqu'à Vincennes. Enfin les numéros 9, Follet-Buissonnet, 4, Éternel Delo et 3, Fast Domino compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 8, 2, 14, 7, 9, 4 et 3.
Des pronostics que vous retrouvez sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu
de... C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontaient à travers les archives d'Europe 1.
C'est le clou de ce 75e festival de Cannes. La Palme d'Or doit être décernée demain soir. En 1966, elle avait été décernée à Claude Lelouch. Bonjour CNTA.
Bonjour Fanny, bonjour Omblin.
Son film « Un homme et une femme » est sorti au cinéma il y a tout juste 56 ans.
Oui, cette romance, cet amour passionné porté par les acteurs Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, l'histoire de ces deux veufs qui se croisent, s'aiment presque instantanément. Ce film va connaître l'ultime consécration lors du 19e Festival de Cannes. Le réalisateur Claude Lelouch reçoit la Palme d'Or à seulement 28 ans. Quelques instants après, il répond aux questions d'Europe 1 au téléphone.
C'est la grande surprise, c'est formidable, quoi. Il y a Pierrot, Jean-Louis et Anouk autour de moi, on est fous de joie, quoi. Moi, je veux absolument rester et continuer à tourner de la façon dont je tourne. faire tout simplement les films qu'on a envie de faire, les sujets qu'on a envie de faire et éviter à tout prix le film de commande.
Le film de commande, on en est loin. Un homme et une femme, Claude Lelouch l'a orchestré de bout en bout. 102 minutes de poésie, de paysages, de plages d'Ovilès qui défilent. Certains critiques jugent le film trop basique. Claude Lelouch leur répond qu'au contraire, ce sont le naturel, les moments vrais d'une histoire d'amour qui l'intéresse.
Et cette romance est portée par cette musique, cette bande originale dont tout le monde se souvient, Océane.
Oui, un thème culte composé par le célèbre auteur et musicien Francis Lay qui fredonne cet air dans les studios d'Europe 1 au micro de Thierry Géfrotin en 2011.
Me, nos voix bada bada, da bada bada, chante tout bada bada, bada bada bada. C'est très simple et ça raconte le film. Voilà.
Oui, parce que c'est pas pour vous faire plaisir, mais on a dû vous le dire mille fois, ces images-là, on ne les conçoit pas sans cette musique-là, et cette musique-là, on ne la conçoit pas sans ces images-là.
Oui, ça a été le mariage parfait, ouais, c'est vrai.
Un air, une histoire qui résonne encore plus de 50 ans après sa sortie. En 2019, la suite d'Un homme et une femme est présentée à Cannes. Elle s'intitule « Les plus belles années d'une vie », avec les mêmes acteurs, le même décor, la plage de Deauville, et sur place, le souvenir du film vit encore. Écoutez ces badauds croisés sur les planches lors d'un reportage.
Je crois que tout le monde le connaît.
Il est en Ford Mustang, et il arrive sur la plage et il aperçoit cette femme qui joue avec une petite fille. Et c'est un film romantique.
Tu voyais le tournage à Deauville, toi.
Il a pris un coup de vieux quand on le regarde. Mais c'est une telle référence. Je pense qu'au niveau de passion amoureuse, je crois qu'un homme et une femme resteront toujours un modèle quelque part.
Claude Lelouch qui est de nouveau présent à Cannes cette année. Lui qui affirme en plaisantant être né deux fois, une première fois en 1937 et une seconde fois l'année de sa Palme d'Or en 1966.
Merci beaucoup, Océane Théard. C'était le jour où et le film Un homme et une femme. À suivre la grande histoire de Roland Garros sur Europe 1.
Fanny Marceau et Omblin Roche.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h43 sur Europe 1. Bon réveil ce vendredi matin. C'est aujourd'hui le début du troisième tour des internationaux de France de tennis, Porte d'Auteuil à Paris. En attendant le retour sur les cours des grands favoris, Novak Djokovic, Rafael Nadal et puis la révélation, le jeune espagnol Carlos Alcaraz, on plonge ce matin dans l'histoire de Roland Garros avec votre invité Omblin.
Bonjour Eliassine Aoubi.
Bonjour Omblin.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes journaliste spécialiste tennis. Vous connaissez parfaitement Roland Garros, le tournoi que vous suivez de près depuis 20 ans, mais également ses cours, ses bâtiments, ses allées, son évolution depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et vous publiez chez Amazon le livre Stade Roland Garros. Alors, si vous le voulez bien, commençons simplement par le commencement et rappelons que le stade de Roland Garros est créé grâce à la victoire des fameux mousquetaires.
Oui, absolument. C'est comme cela que ce stade est né, grâce à cette victoire acquise en 1927 à Philadelphie. Tout de suite après cette victoire, s'est posé la question où accueillir un tel événement, car à l'époque, le vainqueur de la Coupe Davis recevait l'année suivante. Eh bien, très vite, s'est posé la question où organiser un tel événement. Et par un heureux concours de circonstances, un emplacement était libre à la place où le tournoi se déroule aujourd'hui, bien évidemment beaucoup moins grand à l'époque. Et voilà comment tout a commencé. Et finalement, grâce aux victoires suivantes des fameux mousquetaires, eh bien, le stade a pu survivre à tout cela et évoluer surtout.
Les mousquetaires Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotra et Jacques Brugnon, le stade de Roland-Garros qui est inauguré en 1928. Vous écrivez dans votre livre Stade Roland-Garros, quand même le dire, Guy Forget, directeur du tournoi de Roland-Garros entre 2016 et 2021, ici les pierres changent, les âmes restent. Parmi toutes les transformations qu'a connues le stade, donc depuis 1928, quelles sont celles qui, selon vous, sont les plus significatives, qui ont fait entrer le stade dans une nouvelle ère?
Oh, finalement, ça s'est fait au fur et à mesure des années. Ce stade est intrinsèquement lié par rapport à l'histoire de ce tournoi, qui est le tournoi de Roland-Garros, qui est le seul tournoi du Grand Chelem qui porte le nom d'une personnalité, car ce qui était très important pour ce stade, c'est que ceux qui l'ont initié, c'est-à-dire Pierre Gillou et Émile Le Sieur, qui étaient le capitaine de Coupe Davis et aussi le président du Stade français à l'époque, et notamment Émile Le Sieur, avait émis l'idée que le stade stade porte le nom de son ami rencontré sur les bancs de HEC, et cet ami était l'aviateur et héros Roland Garros. Donc au fur et à mesure des années, le stade s'est étendu. Je pense que la première phase d'évolution dans les années 70 a permis à ce que le tournoi connaisse un nouvel engouement. C'était aussi avec l'arrivée des joueurs comme Björn Borg, Chris Evert. La télévision est également arrivée en grand nombre. La radio aussi, bien évidemment, comme média. Donc finalement, c'est une vague successive de travaux, de grands champions qui ont permis à ce que ce tournoi puisse vivre et une exposition médiatique importante. Mais la plus grande, c'est celle que nous pouvons voir actuellement, la métamorphose achevée, avec ce cours central désormais doté d'un toit rétractable, et également en 2024, le cours Suzanne Lenglen sera également doté d'un toit léger, amovible. Donc finalement, la plus grande transformation, c'est finalement sans doute la plus récente, même s'il y en a eu de très grandes au cours de ces 90 dernières années.
Oui, il y en a eu de très très nombreuses. Alors vous parliez des héros finalement. Si vous deviez choisir des figures sportives, celles dont le nom restera à jamais associé à Roland Garros, c'est difficile, mais si vous deviez me donner quelques noms. Deux, trois.
dans ce livre, le livre est rythmé évidemment avec les différentes informations liées à l'évolution du stade, mais également du tournoi. Et il y a différents portraits, plus ou moins longs, qui sont consacrés aux différents champions, évidemment, qui ont contribué à la notoriété de ce stade et de ce tournoi. Donc Björn Borg, évidemment, a amené une nouvelle dimension, tant par son jeu que par sa personnalité. Chris Evert, qui reste aujourd'hui la plus titrée des internationaux de France. Et puis ensuite, il y a eu l'âge d'or du tennis féminin avec Steffi Graf, qui est sortie par la plus grande des portes avec sa mémorable finale remportée en 1999. Monica Seles, évidemment, avec un triplé inédit à l'époque. Et puis évidemment, Rafael Nadal. On ne peut pas évoquer Roland Garros sans évoquer Rafael Nadal, qui en est à 13, série en cours, et qui, c'est le champion que j'ai pu suivre depuis le plus grand nombre d'années, on va dire, et je reste encore stupéfait et bluffé par sa simplicité d'approche, son très grand professionnalisme, et surtout par ses nombreux titres acquis depuis 2005, et sa farouche envie de toujours se battre comme si c'était le premier tournoi qu'il disputait.
Elissine Aoukbi, vous revenez dans votre livre Stade Roland-Garros sur l'évolution du stade, on vient de le dire, ses transformations, ses toits, ses ailes. On vient de parler de ces héros. Les petites anecdotes, alors les petites histoires dans la grande, quelles sont celles que vous pouvez partager avec nous ?
Oh, il y en a de nombreuses, mais les plus amusantes, moi, c'était par exemple la dégustation du couscous l'hiver sous le central, avec la dégustation qui était faite par Yannick Noah et Gilles Moreton, l'actuel président de la Fédération française de tennis. Au début des années 70, ils étaient pensionnaires au stade Roland-Garros. C'était les premiers à vivre là le reste de l'année lorsqu'ils n'étaient pas en tournoi. Eh bien, une famille, la famille Séguéni, qui s'occupe de l'entretien, entre autres, des cours, les invités, eux, qui logeaient également à l'intérieur du stade, à déguster ce couscous. Donc c'était pour eux une seconde famille. Ensuite, il y a, par exemple, les parties de cache-cache que Gaël Monfils disputait sous le cours Suzanne Lenglen, car c'est un cours qui est doté d'un parking souterrain. Et lorsqu'il était petit et qu'il était au stade en tant que joueur, évidemment, pour différents championnats ou rassemblements, et eh bien ça lui est arrivé de jouer à cache-cache dans le stade, et en particulier sous le cours Suzanne Lenglen.
Et toutes ces histoires, ces petites anecdotes, on les retrouve dans votre livre Stade Roland-Garros, publié chez Amazon. Merci beaucoup Eliassine Aoukbi d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste tennis, grand spécialiste de Roland-Garros notamment, et les internationaux de France de tennis se poursuivent aujourd'hui. Europe 1 est la radio officielle. Merci.
Merci à vous. Europe Matin.
Fanny Marceau et Omblin Roche.
Il est 5h50 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. C'est le journal permanent. Alban Le Prince.
Le patron de Ferrero France demande pardon dans Le Parisien ce matin. Pardon aux plus de 80 personnes tombées malades après avoir consommé des Kinder contaminés à la salmonelle. Selon lui, c'est le plus gros rappel de produits de ces 20 dernières années. Plus de 3000 tonnes de chocolat. Alors qu'au moins 118 cas de variole du singe ont été détectés en Europe, les 27 préparent actuellement des achats groupés de vaccins et traitements contre la maladie, a fait savoir la Commission européenne hier. Les détails doivent être finalisés dans les prochains jours. Et puis en Ukraine, Volodymyr Zelensky, le président, accuse à nouveau la Russie de génocide. Il dénonce la pluie de bombes qui s'abat sur Severodonetsk, ville clé du Donbass qui pourrait connaître le même sort que Mariupol.
Vous êtes sur Europe 1, bon début de matinée. Le vendredi, c'est musique avec Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous, bonjour Fanny, bonjour Omblin.
Vous nous présentez le nouvel album du groupe de hard rock britannique Def Leppard.
Et bien ça, Def Leppard est un groupe très populaire dans les années 80. Il fait partie de la nouvelle vague du heavy metal britannique. Ils sont originaires de Sheffield et ont toujours eu un don pour fédérer les foules. Et c'est d'ailleurs pour ça que la formation a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame. Juste avant de publier leur nouvel album, le groupe a fait monter la température avec quelques titres dont l'incandescent Fire It Up. Le nouvel opus s'appelle Diamond Stars Hellos. Il est à peine sorti du garde-manger puisqu'il sort ce matin. On y retrouve également le titre Take What You Want. Il s'agit là de leur premier album studio à sortir en 7 ans, le précédent intitulé sobrement Def Leppard et paru lui en 2015. Diamond Star Hellos contient également le titre Kick, premier single extrait de ce 12e chapitre de la longue carrière du groupe. Tendez l'oreille, c'est un morceau qui s'écoute en hochant de la tête d'avant en arrière. C'est très bon pour soigner les cervicales. Parmi ces 15 nouvelles compositions, des clins d'œil assumés aux premières influences du quintet. On pense à David Bowie, on pense aussi au groupe rock-folk londonien T-Rex. À noter que le pianiste de David Bowie, Mike Garson, joue sur deux titres et qu'une star de la country music américaine, Alison Krauss, a posé sa voix notamment sur 10 guitares.
Stéphanie, est-ce que Def Leppard sera de passage en France ?
Ben non, je suis désolée de vous décevoir. Def Leppard entame une tournée des stades, oui, 36 dates, mais ce sera uniquement aux États-Unis et ce sera à partir du 16 juin prochain, si jamais vous voyagez là-bas cet été. En co-tête d'affiche avec un groupe de glam metal qui répond au nom de Motley Crue, mais pas de concert en France, désolée.
Bon, bah c'est bien dommage. Changement total de registre, Stéphanie, un peu de disco pour conclure.
Allez, on conclut avec un morceau qui va vous donner envie de danser, Céron, le pape de la disco des années 70, le parrain de la French Touch, l'homme derrière les tubes gigantesques à l'instar de Supernature. Et bien Céron s'associe à deux stars de la pop italienne du moment, Cola Pesce et Di Martino, pour un nouveau single intitulé Non Carmarmi Mai, une version italo-disco du titre Call Me Tonight qu'il avait publié en 1979. Et ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute maintenant sur Europe 1, ça vous va ?
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
5h57, dans un instant, la météo, le journal et Cannes.
Non, pas cette canne-là.
Pas celle-là.
Le Cannes, le 75e festival et sa palme d'or, son ambiance après 2 ans de restrictions Covid, ses happenings, sa résonance politique. Notre invité à 6h10, Simon Rio, critique de cinéma. Et puis on écoutera ensuite votre partition, Omblin.
Avec Alain Souchon qui retrouve Laurent Voulzy en 1985.
Qui mit tes formes et tu pleures sur le cuir de ta chrysler.
la Bretagne et le sud de la France. Ils élaborent l'album. C'est comme vous voulez, rendez-vous dans 20 minutes.
Mais d'abord la météo, Valérie Darmon. Bon, plus ou moins nuageux aujourd'hui selon nos régions, c'est ça?
Absolument, Fanny. Selon si vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, bien sûr. Alors, si vous habitez à Brest, Rennes, Évreux, Paris et sa région, Compiègne, Reims et Metz, là, vous ouvrez vos volets sur un ciel très bas, avec même sur la partie nord de ce petit tiers nord, quelques ondées de quoi arroser nos jardins. Même tendance entre les Landes et les Hautes-Pyrénées, avec quelques éclaircies en milieu de notre matinée. Et puis, au fil des heures, le beau temps qui va s'installer très généreusement, pas de quartier, sur le nord, et le ciel un tout petit peu peut s'assombrir sans que ce soit trop méchant. Entre le golfe du Morbihan et les plaines d'Alsace, là les nuages font un petit peu de résistance.
Et sur la moitié sud?
C'est complètement différent. Du nord de l'Aquitaine au centre, jusqu'au golfe du Lion et sur les Bouches du Rhône, grand beau temps sans aucune réserve. Mistral et Tramontane qui restent sensibles dans leur domaine, avec des rafales qui soufflent entre 60 et 80 km/h. Et comme souvent ces derniers jours, le ciel qui se charge à la mi-journée sur les Alpes et sur la Côte d'Azur, donnant des averses dans l'après-midi sur les massifs.
Et alors, la température, elle remonte enfin quand même, il y a de l'espoir.
Elle remonte enfin, effectivement, avec des maximales entre 17 à Cherbourg et 30 degrés à Montpellier.
Bon, bah ça va, on s'entend plutôt pas mal. Merci beaucoup Valérie Darmon. Vous écoutez Europe 1, très bon début de journée à tous. Nous sommes le vendredi 27 mai, il est 6h. Maillot de bain de sortie sur les plages de France pour ce grand week-end de l'Ascension. Forte chaleur présente sur tout le pays qui pose problème dans certaines régions. L'eau vient à manquer. Pire, les fuites dans les canalisations pénalisent grandement l'approvisionnement. Reportage dans ce journal. Un air de revanche au Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen fait la chasse à Reconquête pendant la campagne des législatives. Objectif, mettre des bâtons dans les roues d'Éric Zemmour et de ses candidats. Et puis, un gangster s'est éteint hier. Le célèbre acteur américain Ray Liotta, connu pour son rôle dans Les Affranchis, est décédé à l'âge de 67 ans.
Europe Matin, Fanny Marceau et Amblin Roche.
Le journal de 6h avec Johan Tritz. Bonjour Johan.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. Ça y est, vos valises sont posées pour ce grand week-end de l'Ascension, l'occasion de profiter du beau temps présent sur tout le pays. Des fortes chaleurs qui durent depuis des semaines dont vous bénéficiez, mais qui ont un impact sur l'environnement. Dans les régions touchées par la sécheresse, l'approvisionnement d'eau potable vient à manquer. Surtout, la France en perd 20% à cause de fuites dans les canalisations. Pour y faire face, des trackers sont dépêchés. Reportage en Ile-de-France avec Louis Salé.
Abdellah Kalmous sillonne les rues d'Antony au sud de Paris. Casque aux oreilles, il dévisse une à une les trappes du trottoir.
Je vais mettre mon capteur, donc je vais le mettre sur ma vanne. J'ai un aimant qui me permettra d'avoir un bon contact avec la conduite.
Il écoute le bruit de l'eau.
J'ai un bruit de tirage, ça veut dire un bruit de consommation d'eau.
Ce technicien distingue à l'oreille le bruit d'une consommation courante de celui d'une fuite et plus loin justement il en repère une.
Je vais mettre mon pied pour isoler un peu le bruit de l'extérieur qui me permettra d'écouter un peu plus le bruit de la fuite. J'ai un début de bruit ici, donc là je vais me déplacer, je vais écouter sur le prochain point.
En comparant les sons sur toute la rue, Abdella localise le tuyau défaillant et le signale immédiatement à l'équipe de réparation. Cette traque des fuites n'est pas nouvelle, mais depuis 5 ans, le nombre de canalisations écoutées a doublé. Frédéric Michaud travaille à la coordination d'exploitation.
Toutes ces informations vont alimenter des modèles mathématiques qui nous permettent de déterminer des taux de défaillance prédictifs sur ces ouvrages et ainsi réaliser des programmes de renouvellement de réseau, donc de préserver la ressource.
Il y a 5 ans, 15% de l'eau du réseau était perdue via les fuites. Aujourd'hui, c'est 9%, soit moitié moins que la proportion moyenne d'eau qui s'échappe des canalisations françaises.
Louis Salé pour Europe 1.
D'une chasse à l'autre, la chasse à Reconquête pour le Rassemblement national.
Oui, la guerre est déclarée entre les deux partis d'extrême droite pour les législatives. Fâché d'avoir été bousculé pendant la présidentielle, le RN s'attache aujourd'hui à faire perdre Éric Zemmour et ses candidats. Jordan Bardella se rend d'ailleurs dans la circonscription du chef de file Reconquête aujourd'hui, Victor Chabert.
Oui, Jordan Bardella va soutenir Philippe Lothiot, le candidat RN de la 4e circonscription du Var, l'adversaire d'Éric Zemmour. L'objectif du président du Rassemblement National, c'est de relancer la campagne de son candidat, un peu à la peine face au fondateur de Reconquête. Selon un sondage local, Éric Zemmour serait même au second tour. Face à la députée sortante de la majorité, le RN arriverait 3e. Mais ce n'est pas la seule manœuvre du Rassemblement National face à Reconquête. La semaine prochaine, le même Jordan Bardella va tenir un meeting national nationale pour les élections législatives. Et ce sera dans le Vaucluse, à Cavaillon, dans la circonscription de Stanislas Rigaud, le président des Jeunes avec Zemmour, dont la suppléante est une certaine Marion Maréchal. Alors, du côté du RN, on refuse d'assumer cette stratégie de tentative d'asphyxie, de reconquête. Tout cela n'est soi-disant que du hasard. Mais chez les partisans d'Éric Zemmour, la colère gronde. Un cadre me confiait son incompréhension face à un Rassemblement national, je cite, qui préfère faire campagne contre Reconquête plutôt que contre LFI ou la majorité présidentielle.
Merci Victor Chabert du service politique d'Europe 1.
Après l'affaire de la salmonelle, les excuses de Ferrero, peut-être un peu tard.
Je suis désolé, le mea culpa du patron France du géant de la confiserie Nicolas Nekov dans les colonnes du Parisien ce matin. 80 enfants étaient contaminés par la bactérie après avoir mangé des Kinder. L'entreprise assure vouloir indemniser les familles sans préciser le montant.
Il est 6h03 sur Europe 1. On part à l'étranger avec les mots forts de Volodymyr Zelensky cette nuit.
La Russie pratique le génocide dans le Donbass. Les accusations du président ukrainien à la télévision de son pays faisant écho au motif utilisé par Vladimir Poutine pour envahir son pays. Cette nuit, Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a été bombardée. Des frappes qui ont fait 9 morts et 20 blessés.
Et puis aux États-Unis, 48 heures après la fusillade qui a fait 21 morts dans une école primaire du Texas, la police est sous le feu des critiques.
La colère des parents, surtout de victimes à Uvalde, qui accusent les forces de l'ordre de la ville d'avoir mis trop de temps à intervenir. Témoignages et vidéos à l'appui. Joe Biden doit se rendre sur place dimanche en pleine tempête et surtout pendant la convention de l'association pro-armes, la NRA, qui se tient à Houston, dans le même état.
L'Amérique qui pleure aussi la perte de la star Ray Liotta.
L'acteur américain est décédé à l'âge de 67 ans. Il était en tournage pour un long métrage en République dominicaine. Ray Liotta, connu pour son rôle de gangster dans Les Affranchis sortis en 1990, souvenir de ce film culte avec Marie Jiquel.
Ray Liotta avait réussi la prouesse de se faire remarquer dans Les Affranchis alors qu'il partageait l'affiche, cette affiche noire à l'écriture blanche, avec deux monstres du cinéma, Robert De Niro et Joe Pesci. Dans ce film d'apprentissage, il y tenait le premier rôle, celui d'Henry Hill, jeune New-Yorkais qui rêve de devenir gangster et apprend les ficelles auprès de deux mafieux déments et explosifs, Jimmy et Tommy.
We always called each other good fellas.
Un an d'audition passé devant le réalisateur Martin Scorsese, c'est son calme, disons sanguin, un calme jamais très serein qui va convaincre le boss. Ray Liotta avait alors enfilé son costume de truand et adopté cette gestuelle bouillante. Ce trio violent a marqué l'histoire du cinéma à coups de pelle et d'humour noir, des répliques cinglantes et la scène la plus troublante du cinéma, celle où Joe Pesci le teste au restaurant, un Joe Pesci humiliant face à un Ray Liotta très gêné.
I make you laugh, I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny?
You're funny.
Par la suite, Ray Liotta enchaînera les rôles de flic, jamais loin des magouilles, mais rien d'égal à Henry Hill.
Marie Jiquel pour Europe 1.
Autre décès cette nuit, celui d'un des fondateurs de Depeche Mode, Andy Fletcher.
Moment de silence pour le surnommé Fletch qui s'est éteint à 60 ans. À l'origine de la création du groupe, le claviériste était aussi le grand maître du marketing au sein de la bande. Nous sommes choqués et remplis d'une immense tristesse, pouvons-nous lire dans un message du groupe britannique sur les réseaux sociaux ce matin.
Merci beaucoup Johan Tritz pour le journal.
Il est 6h06 et on passe au sport. Le journal des sports avec vous Martin Lange et une journée réussie pour les Bleus à Roland-Garros.
Oui, 4 sur 5, hein, c'est le joli bilan des Français hier porte d'Auteuil. Seule Caroline Garcia ne verra pas le troisième tour. Ça passe en revanche pour la belle histoire. Léolia Jean-Jean, tombeuse de l'ex numéro 1 mondial Carolina Pliskova. Qualification aussi du magicien Hugo Gaston face à l'Argentin Quinchin. Et de deux anciens, Gilles Simon d'abord, qui ne veut décidément pas dire adieu à la terre battue parisienne. Pour son dernier Roland, il a sorti hier l'Américain Johnson. Même lui n'imaginait pas un tel parcours.
Je me pensais pas capable de le faire. Aujourd'hui, je me sentais capable de battre un joueur comme Steve. Mais ça sera vraiment mentir que à aucun moment je me suis vu vainqueur du premier tour. Bah maintenant j'ai gagné, donc je peux dire que ouais.
Un peu plus tard dans la soirée, c'est la doyenne des Françaises, Alizée Cornet, qui s'est offerte une ex-tenante du titre, la Lettonne Ostapenko, dans une ambiance de feu. Sur le central, un Cornet est allé au bout d'elle-même.
J'ai beaucoup donné sur ce match, j'ai beaucoup, beaucoup couru. Ça a grincé un peu à droite à gauche, hein. j'ai plus 20 ans, mais franchement, à mon âge, je me surprends encore. J'ai quand même des bonnes qualités athlétiques encore et je pense que sur ce match, ça a fait une vraie différence.
Alizé Cornet au micro de Cédric Chasseur.
Une Française, une autre, hein, sur les courts aujourd'hui.
Oui, la belle surprise de cette quinzaine, hein. Diane Paris, à 19 ans, elle dispute son premier troisième tour en grand chelem contre l'américaine Sloane Stephens. À suivre aussi Alcaraz, Nadal et le numéro 1 mondial Novak Djokovic.
On passe au foot, Martin, et rien n'est fait pour le dernier Strapontin en Ligue 1.
Oui, match nul hier entre Auxerre et Saint-Etienne, un partout. Les Bourguignons ont égalisé en toute fin de match, mais ils y croient avant le match retour dimanche dans le Forez. Le capitaine auxerrois, Birama Touré.
Il y a un vrai coup à faire. Je pense qu'ils auront un peu plus de pression que nous. Ils seront devant leurs supporters. Nous, on va arriver libérés. Il y aura de la fatigue, mais voilà, on va tout donner. Il nous reste 90 minutes.
Birama Touré au micro de Bein Sport.
Et on termine avec un grand week-end de Coupe d'Europe.
Oui, tout sport confondu. Hein, finale de la Ligue des Champions demain, Real Madrid-Liverpool. Finale de la Coupe d'Europe de rugby aussi, La Rochelle-Leinster à Marseille. Et pour le ballon ovale, hein, ça commence dès ce soir avec la finale de la petite Coupe d'Europe, le Challenge européen. Et une affiche 100% tricolore, Lyon-Toulon. Coup d'envoi à 21h, là aussi, au Stade Vélodrome.
Merci beaucoup, Martin. C'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous sur Europe 1, le temps d'enfiler nos robes de tapis rouge et on file à Cannes. Après 2 ans de pandémie, le festival a retrouvé son ambiance festive, ses paillettes, son public. 75e édition encore très politisée, marquée par des grands moments comme la sortie du nouveau Top Gun Maverick, film Europe 1. À la veille de la Palme d'Or, on vous raconte tout avec le critique cinéma Simon Rio. À tout de suite.
Europe 1. Fanny Marceau et Amblin Roche.
Bon début de matinée à l'écoute d'Europe 1. Il est 6h10, dernière ligne droite pour le Festival de Cannes. Demain, rideau, la cérémonie de clôture va démarrer à 20h30 et on saura enfin qui est la Palme d'Or cette année.
Bonjour Simon Rio.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma. J'espère que vous êtes prêt à nous délivrer un pronostic pour cette 75e Palme à la fin de cette interview. Mais je voudrais d'abord revenir avec vous sur cette édition cannoise, édition de renaissance presque après 2 ans de pandémie. Comment le public et les invités dont vous faisiez partie ont-ils vécu ce festival 2022?
Eh bien écoutez, c'était une grande question, un grand point d'interrogation. Après une édition précédente qui était, on va dire, une édition de combat, où il était question de réussir à montrer que le festival pouvait se maintenir, là on était tous curieux de voir s'il allait nous montrer dans quelle mesure allait-il réussir à exister dans des conditions sinon normales, mais en tout cas d'un semblant de retour à la normale. Et ça a été une édition extrêmement impressionnante, d'abord parce qu'elle était pléthorique. On n'a quasiment jamais, sinon jamais, vu autant d'œuvres présentées venant d'endroits aussi variés, de destinations aussi différentes. Et surtout, autant d'œuvres aussi réussies, c'est-à-dire qu'il y avait, que ce soit en compétition officielle, ce qui est logiquement la sélection dont on parle le plus, mais dans toutes les sélections parallèles, énormément de longs métrages d'une qualité souvent assez impressionnante. Donc c'était une édition, oui, assez ébouriffante de par son ambition et de par ce qu'elle a réussi à atteindre en termes de capacité à nous dire que Cannes est encore et demeure aujourd'hui le festival le plus important et le plus prestigieux pour ce qui est du cinéma international.
Mais Cannes a 75 ans, comment réussit-il à rester à la mode, à entretenir justement cette image ?
Eh bien, c'est un exercice de funambule qui est parfois critiqué parce qu'on entend souvent dire oui, ce sont souvent les mêmes qui reviennent, un petit peu comme si on reprochait à Roland Garros de ne pas obliger Nadal à jouer les bras dans le dos. Mais c'est aussi l'enjeu toujours de renouveler les metteurs en scène et les autrices qui sont invitées à Cannes. Il faut bien voir, par exemple, que cette année, en compétition officielle, il y avait beaucoup de metteurs en scène qui étaient en compétition officielle pour la première fois, que ce soit Ali Abassi, que ce soit Tarek Saleh, que ce soit Saïd Roustaï. Il y avait beaucoup de nouveaux venus, mais aussi de metteurs en scène et de réalisatrices prestigieuses comme Claire Denis, comme David Cronenberg. Bref, des attendus, mais aussi des nouveaux venus.
Donc Cannes, c'est aussi finalement le festival de la jeunesse aujourd'hui.
Oui, bien sûr, mais c'est indispensable pour une manifestation qui, encore une fois, a ces ambitions-là en termes de représentation, de puissance artistique et de fenêtre sur le monde. Il faut à la fois réussir à inviter à obtenir les films les plus attendus, mais aussi, vous parliez de Top Gun Maverick, mais il y a également Elvis, deux grands films populaires. Je pense également à Coupé de Michel Hazanavicius qui faisait l'ouverture, c'est-à-dire qu'il faut permettre à tous les cinémas d'exister et d'exister pleinement.
Et d'exister sur les réseaux sociaux, notamment. Cannes a été très présent sur les réseaux sociaux cette année en termes d'image. C'est efficace.
Oui, et puis si vous voulez, c'est indispensable. C'est-à-dire que il faut bien voir une chose, c'est que, me semble-t-il, les réseaux sociaux ont créé une énorme disruption dans la représentation du glamour, des paillettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes curieux de voir de grands comédiens, des comédiennes, des acteurs, des actrices, etc., ben, vous n'avez plus nécessairement besoin du tapis rouge. C'est-à-dire que imaginez que tout d'un coup, tous les spectateurs, tous les cinéphiles se rueraient via les médias traditionnels sur un événement qui peut avoir des airs de l'extérieur, d'événements de gala et un peu d'entre-soi, c'est une erreur. Il faut tout simplement accepter aussi que l'horizontalité arrive à Cannes et qu'il y ait, si on veut que ce soit un festival, un ensemble de festivités, que les gens, les réseaux sociaux puissent également s'emparer de ce qui va s'y dérouler, de ce qui va s'y dire, de ce qui va s'y montrer. Et je pense que Cannes, alors on fera le bilan dans les mois, dans les semaines à venir, de comment ça a fonctionné cette année-là, mais il est évident qu'une manifestation de cette ampleur ne peut pas prétendre et ne doit surtout pas, je pense, prétendre se restreindre des réseaux sociaux sans couper.
Alors pour le coup, parmi ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, il y a beaucoup de politique, il y a eu des grands moments politiques autour de la guerre en Ukraine notamment, avec des incursions sur le tapis rouge pour dénoncer l'agression russe. Et puis Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, également comédien, il faut le préciser, qui ouvre le festival. C'était attendu ça ?
Alors, attendu, je n'irai pas jusque-là, parce que tout simplement, on ne savait pas quelle forme cela prendrait. Traditionnellement, Cannes essaye toujours, si j'ose dire, d'être à l'heure de son époque. Et c'est assez logique, tout simplement parce que il y a ce que le festival fait de lui-même pour imprimer une couleur, pour imprimer une attention, pour tout simplement pointer le regard vers des événements, vers des situations que le festival veut mettre en avant ou dénoncer. Et puis, il y a aussi un fait, j'ai presque envie de dire, de l'ordre de la physique. C'est-à-dire que comme c'est la manifestation culturelle dans l'année où vont se trouver le plus de caméras et le plus de regards dans le monde, naturellement, ceux qui ont un message à faire passer essayent de le faire passer à Cannes. Et enfin, quand on accueille des œuvres qui viennent du monde entier, il y en a aussi beaucoup qui nous semblent politiques tout simplement parce qu'elles nous apportent un autre regard. Vous avez parlé de l'intervention de Zelensky, mais il y a peut-être eu quelque chose d'encore plus fort et important qui a été fait à Cannes. Il a été présenté le film du documentariste lituanien Mantas Kvedaravičius qui s'appelle Mariupolis 2. C'est un documentaire sur ce qui s'est passé à Mariupolis. Il se trouve que ce documentariste est mort en le filmant, il est mort en avril. Et effectivement, le fait de montrer ce qu'on appellerait un bout à bout, techniquement, un film qui n'est pas terminé, qui est inachevé, était pour le coup un acte politique peut-être, je dirais, encore plus fort et plus dans l'ADN du festival que la simple intervention de Zelensky en cérémonie d'ouverture.
Et ça fait rêver aussi tous les jeunes réalisateurs qui voudraient aussi pouvoir dénoncer, parce que c'est vrai aussi que le cinéma sert à ça beaucoup, à dénoncer ou en tout cas à illustrer la société d'aujourd'hui.
Absolument, et c'est ce qui a été encore une fois assez passionnant. On a tendance à caricaturer le festival de Cannes en espèce de grand raout dans lequel des bourgeois iraient roter une omelette au champagne en regardant des petits films lituaniens, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il est en réalité question, littéralement, d'ouvrir des fenêtres sur le monde. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec le film d'un Danois comme Tarek Saleh, qui est d'origine égyptienne et qui va faire un film sur quels sont les intrications du politique et du religieux en Égypte. On va se retrouver avec un film comme Saïd Roustaï, qui est iranien, qui va faire une immense fresque générationnelle sur une famille de petits commerçants en Iran. Et ainsi de suite, en réalité, nous, on peut avoir le réflexe de se dire « Oh oui, c'est social, c'est politique ». En réalité, c'est avant tout des auteurs qui nous parlent de ce qu'ils connaissent, de leur monde, de la société qui est la leur. Et je dirais, avant d'accoler tout de suite le sceau politique, il faut se dire que ce sont d'abord des récits et des histoires qui nous viennent d'un peu partout dans le monde.
Derrière les paillettes, l'émotion, la découverte de Cannes, il y a quand même une réalité, celle de l'industrie du cinéma. Comment elle se porte après ces 2 ans de Covid ? En France, on n'est pas tout à fait retourné en salle encore, hein.
Bien sûr, absolument. Il y a d'ailleurs un très récent rapport du CNC qui montre qu'il y a plusieurs, on va dire, groupes de population, bassins de spectateurs qui ont perdu, et c'est terrible à dire, l'habitude du fait de la très longue fermeture des salles, l'habitude de revenir en salle. Néanmoins, je pense que, alors c'est très facile à dire dans la position tout simplement du journaliste, mais il va falloir qu'on réfléchisse collectivement. Il faut savoir qu'en France, l'industrie du cinéma, via le CNC, via la direction que peut donner l'État est une affaire collective, pour le coup, parce que les différents corps de métier fonctionnent de concert, eh ben, il faut quand même qu'on se dise très froidement, objectivement, que probablement jamais dans l'histoire de l'humanité, les gens n'ont regardé autant de fiction devant un écran. Alors, pour certains, c'est devant les plateformes, pour d'autres, c'est au cinéma, pour certains, c'est plus classiquement devant leur télévision. Il n'empêche, jamais nous n'en avons regardé autant. Donc, cela signifie qu'il y a un désir qui ne s'est pas éteint. Il y a des habitudes qui changent, il y a des modes de consommation qui se métamorphosent. C'est à nous collectivement de nous demander comment mieux les accompagner, comment mieux faire vivre le cinéma, non pas dans la salle plutôt que devant un petit écran, mais comment faire cohabiter ces modes de fonctionnement et comment faire en sorte que ces différents modes de consommation permettent surtout l'avènement de nouvelles œuvres et d'avoir une grande richesse créative. Parce que c'est ça la particularité de la France, c'est la variété des œuvres qui nous sont proposées.
Alors voici venue l'heure du prono, il est 6h18, je vous ai promis un pronostic, 21 films en compétition, quel est le favori pour vous ?
Alors écoutez, je prendrai des pincettes parce que tout simplement n'oublions pas que le jury change chaque année et qu'il est composé d'artistes qui sont d'horizons très différents, donc il est faut se méfier un peu avant de dire oh, mon pronostic est évident. Je dirais tout simplement que pour moi il y a trois films qui se détachent. Il y a RMN de Christian Mungiu qui a fait très forte impression quand il a été montré et qui me semble pouvoir correspondre, on va dire, dans sa vision de la société roumaine, peut-être à certaines curiosités qu'il y a au sein du jury. Je pense que Les Glass Brothers de Saïd Roustaï, de par à la fois le regard qu'il pose sur l'Iran, mais l'ampleur narrative qui est la sienne et son ambition peut vraiment emporter les gens. Et puis n'oublions jamais le fameux coup de l'émotion que nous fait toujours la sélection officielle en présentant un film en général assez bouleversant dans ces dernières heures. C'était le cas de Close de Lucas Dont. Mm-hmm. Bon, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour voir qu'il a bouleversé beaucoup de gens qui l'ont vu. Et effectivement, il faut bien se rappeler que voilà, c'est très long Cannes, c'est quand même 12 jours à voir 5 films par jour. Et effectivement, un gros coup de larmes, un gros coup d'émotion comme ça à la fin du Belge Lucas Dont, ça peut aussi faire son effet.
Merci beaucoup Simon Rio d'avoir été avec nous sur Europe 1. On verra si vos pronostics se confirment. Bonne journée à vous et bonne cérémonie de clôture du Festival de Cannes demain soir.
Bonne journée à vous.
Europe Matin. Fanny Marceau et Omblin Roche.
6h20, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
Vous l'avez peut-être constaté en arrivant à la plage pour ce long week-end de l'Ascension. La mer grignote progressivement nos côtes. 126 communes sont menacées en France. Pour savoir si vous êtes concerné, la carte est disponible sur notre site internet europe1.fr. Aux États-Unis, manifestation prévue aujourd'hui en marge de la convention annuelle du lobby pro-armes NRA qui se réunit jusqu'à lundi à Houston, au Texas, alors que le débat sur les armes est plus que jamais relancé après la tuerie d'Uvalde qui a causé la mort de 19 enfants. À Roland-Garros, quasi sans faute pour les Français hier chez les hommes, Hugo Gaston et Gilles Simon accèdent au troisième tour. Côté dames, victoire d'Alizé Cornet et Léolia Jean-Jean. En revanche, c'est fini pour Caroline Garcia.
Vous avez reconnu le jingle de la partition Omblin, consacré aujourd'hui à Alain Souchon, qui fête ses 78 ans aujourd'hui. Vous revenez pour l'occasion sur son 7e album paru en 1985.
C'est comme vous voulez, Fanny. C'est le nom de ce disque qui marque un tournant dans le répertoire d'Alain Souchon. Pour la première fois, il fait appel au directeur artistique Michel Curieux, qui compte bien bouleverser, voire électriser les tonalités.
C'est comme vous voulez.
Un an avant la sortie du disque, Alain Souchon s'amuse à jouer l'acteur.
Oui, on l'a vu un peu plus tôt dans L'été meurtrier, donner la réplique à Isabelle Adjani cette fois. Sa partenaire à l'écran s'appelle Miu Miu et il se rend sur les terres de sa naissance au Maroc pour le tournage du vol du Sphinx. Il joue le rôle d'un pilote d'avion. Le succès sera minime, mais c'est pas grave pour Alain Souchon, même s'il déteste se voir à l'image, le cinéma lui permet de sortir, dit-il, de sa vie normale, de voir d'autres gens aussi.
Arrêtez tout dans les magazines.
Retour en France devant une page blanche pour se remettre au travail.
Retour aussi de son complice de toujours, Laurent Voulzy, pour composer les mélodies. Pour le rassurer aussi, Alain Souchon est un éternel angoissé, effrayé à l'idée de faire l'album de trop. Voilà 10 ans qu'il sort des disques et il estime qu'il a de la chance d'écrire des chansons que les gens aiment bien. Mais jusqu'à quand, en revanche, Laurent Voulzy, lui, eh bien, il ne doute pas.
Je veux du cuir, pas du pipe chaud du vécu, je veux des gros seins, des gros culs.
En studio, une nouvelle équipe accompagne Alain Souchon.
Avec à sa tête le génie des arrangements, on l'a nommé un petit peu plus tôt, Michel Curieux. Il s'est occupé des concerts de Michel Delpech et Claude Nougaro et des musiques de Michel Jonas et Louis Chédid.
Louis Chédid est d'ailleurs crédité sur l'album.
Oui, Laurent Voulzy lui fait une petite place sur 2 morceaux. Et puis à la batterie, c'est essentiellement Manu Katché que vous entendez. L'album, c'est comme vous voulez, plus rock que les précédents, plus sombre aussi à l'image de la pochette en noir et blanc, avec simplement le portrait d'Alain Souchon impassible. Le disque est surtout gonflé au synthétiseurs, les synthétiseurs particulièrement à la mode dans les enregistrements de l'époque.
Comme elle est partie, Jim Malenet. Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. La presqu'île, le boulevard de la mer. Serrer si fort.
Et la balade de Jim, extrait de l'album C'est comme vous voulez, sorti en octobre 1985. Alain Souchon qui fête ses 78 ans aujourd'hui. Et pour les 10 ans du Louvre-Lens, figurez-vous, il sera en concert gratuit dans le parc du musée le dimanche 5 juin à partir de 20h30.
Merci beaucoup Ambline.
Avec plaisir.
Vous restez avec nous, la suite de la matinale qui se poursuit avec Lionel Gougelot. À tout de suite.